appris que le groupe français Ludendo, près de 400 magasins dans le monde, qui détient l'enseigne de jouets La Grande Récré, se retrouve en redressement judiciaire. Il serait rentable, sauf que endetté à hauteur d'une centaine de millions d'euros, ça fait peur aux banques, lesquelles ont coupé des lignes de crédit, et d'autres sociétés se savent menacées également.
Alors que le secteur du jouet, Jean-Marc, est en France l'un des plus importants d'Europe.
Un marché qui représente près de 3,5 milliards d'euros, qui a un peu reculé ces derniers mois, c'est vrai, mais après 5 années de hausse consécutive, un marché qui reste fragile, sensible à la baisse de la natalité au passage, à la banalisation du phénomène de revente d'articles d'occasion aujourd'hui, aux sorties de films aussi avec les ventes de licences. Un marché en tout cas très concurrentiel où les acteurs doivent composer en permanence avec les changements de mode et de style de plus en plus rapides sous la poussée du commerce en ligne. Tout l'enjeu pour eux, eh bien, il est de réussir à s'adapter.
Et justement, Jean-Marc, qui sont les professionnels qui s'adaptent ?
Alors, c'est l'ensemble des opérateurs du secteur. Le premier marché du jouet, ce sont les États-Unis, mais le premier concurrent, c'est la Chine. Elle fabrique près des 2/3 des jouets dans le monde. Difficile, bien sûr, de tenir le choc, sauf à se singulariser par une identité, un design particulier à la manière de Smoby, devenu Simba depuis son rachat par une société allemande. Des sociétés comme Vouli ou BioViva l'ont bien compris dans les jeux éducatifs. Cela vaut tout autant pour des groupes comme le danois Lego qui s'est rendu incontournable en gardant son matériau de base, la brique, mais en l'adaptant avec la brique connectée et puis en cultivant, on le sait, ses propres parcs d'attractions.
Des marques qui s'adaptent et qui résistent, mais pour les grands distributeurs, quelle stratégie ?
Alors les grands distributeurs ont bien compris qu'ils ne devaient pas abandonner ce marché. C'est que le jouet, c'est un formidable produit d'appel. Le problème, c'est que les grandes surfaces ont du mal à se différencier sur ce créneau. Ce sont des généralistes. Alors, elles se sont mises à concevoir des espaces ludiques pour enfants, des Corner Kids, espaces centrés sur la gamme de jouets d'une marque puis d'une autre. Même une enseigne spécialisée comme la Fnac s'y est mise. Des jardineries aussi. Un moyen en tout cas d'augmenter la fréquence des visites en famille, de vendre d'autres produits, le jouet qui devient ainsi un relais de croissance.
Jean-Marc Chardon, votre billet économique est à retrouver sur franceculture.fr. Le temps de ce vendredi 16 mars, variable, avec une alternance de nuages, d'éclaircies et de pluie. Les températures sont comprises ce matin entre 3 et 8 degrés en général, jusqu'à 12 en Corse. Cet après-midi, il fera entre 9 et 15 degrés du nord vers le sud, jusqu'à 18 en Provence et en Corse, Guillaume Herner.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Et puisque vous parlez de météo, je dois faire un mea culpa, un mea maxima culpa hier, en évoquant l'inscription des climats des vignobles de Bourgogne au patrimoine de l'UNESCO. J'ai cru qu'il s'agissait de météo. J'ignorais que le terme de climat au pluriel est désormais l'équivalent du terme de terroir dans la région, qui en compte environ 155 avec des caractères extrêmement contrastés, me dit Thibault. J'ai reçu plus de mails que si j'avais dit que François Mitterrand était encore président de la République. Je vous promets que je ne suis pas acheté par le lobby bordelais. En attendant, dans quelques instants, on va parler non pas des climats de Bourgogne, même si c'est réjouissant, mais de la vente d'autres choses, des bijoux de famille. On va voir comment la Française des Jeux, Aéroports de Paris et Engie pourraient renflouer les caisses de l'État.
France Culture, au Salon Livre Paris. Pendant 3 jours, France Culture célèbre les livres et leurs auteurs. La Russie, invitée d'honneur cette année, une vingtaine d'émissions en direct et des temps forts dédiés aux auteurs russes d'hier et d'aujourd'hui. Solzhenitsyn, Tolstoï, Zakhar Prilepin ou Ludmila Ulitskaya. France Culture en direct de Livre Paris, aujourd'hui et pendant tout le week-end, hall 1, stand F1 du salon, porte de Versailles. Plus d'infos sur franceculture.fr, en partenariat avec le Figaro Littéraire.
7h17.
Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Herner.
La Française des Jeux, Aéroports de Paris, Engie, trois fleurons de l'économie française, sont-ils en passe d'être privatisés ? Hier, le commissaire aux participations d'État a déclaré que le gouvernement présenterait ses choix sur ces dossiers au cours du printemps en vendant une partie de ses entreprises pourtant rentables. L'État espère notamment rembourser une partie de la dette. Mais quel pourrait être le prix à payer ? Bonjour François Hical, vous êtes économiste chargé de cours à l'Université de Paris 1. Alors pourquoi l'État pourrait-il privatiser, avec quel intérêt, ces trois entreprises qui sont tout à fait rentables ?
En privatisant ces entreprises, l'État va perdre le bénéfice de dividendes qu'elle leur verse chaque année, d'autant plus que ces entreprises sont très rentables, hein, en particulier Aéroports de Paris et la Française des Jeux. Mais d'un autre côté, avec le prix de ces privatisations, il va pouvoir moins s'endetter, et donc faire des économies sur ses charges d'intérêt. Et donc tout l'enjeu, c'est de trouver, d'obtenir un prix suffisant pour que les économies sur la charge d'intérêt soient supérieures aux dividendes qu'il ne recevra plus dans les années qui viennent. Alors ça, c'est vrai pour toutes les privatisations. Dans le cas particulier d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'État va devoir imposer des contraintes fortes aux futurs entrepreneurs privés pour que les clients d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux ne soient pas trop lésés par cette opération.
Alors, est-on sûr que l'État va faire une bonne affaire et que nous allons faire une bonne affaire ?
Le problème, c'est que les intérêts financiers de l'État risquent d'être contradictoires avec ceux des clients d'Aéroports de Paris ou de la Française des Jeux. Je m'explique. L'exploitant d'Aéroports de Paris pourrait très fortement augmenter des redevances qu'il fait payer aux passagers, vous, à travers les billets que vous achetez, et surtout aussi les compagnies aériennes pour les services qu'il leur vend, et notamment la première d'entre elles, qui s'appelle Air France. Donc l'État va être obligé, et déjà obligé d'ailleurs, de contrôler les prix d'Aéroports de Paris, et suivant que cette contrainte sur les prix d'Aéroports de Paris sera plus ou moins forte, l'intérêt pour les futurs actionnaires d'acheter Aéroports de Paris sera plus ou moins grand et l'État fera une plus ou moins bonne affaire. Donc, soit l'État gagne beaucoup d'argent, mais le risque, c'est pour les clients, soit l'État gagne pas beaucoup d'argent et les clients s'en trouveront peut-être mieux.
Mais en plus, on pourrait quand même dire, François Eckhall, qu'Aéroports de Paris, par exemple, est un actif stratégique, ça n'est pas n'importe quoi.
Alors, en plus, Aéroports de Paris est un actif stratégique, c'est la porte d'entrée de la France, pour entrer en France depuis...
Il y a d'autres aéroports. Vous allez vous faire disputer par les autres aéroports.
Mais de fait, l'aéroport de trafic d'Aéroports de Paris est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que celui de l'aéroport de Nice, qui est le deuxième, qui est quand même un peu plus loin, ou celui de Lyon. C'est en effet stratégique, ce qui veut dire que l'État va probablement essayer, en tout coup, mettre des contraintes sur la nature des acheteurs potentiels, faire en sorte que ce ne soient peut-être pas des Chinois qui achètent Aéroports de Paris, mais ce qui veut dire donc que
On a le droit de faire ça.
Oui, bien sûr. La législation a été renforcée ces derniers temps sur les intérêts stratégiques de l'État et en matière d'investissement direct étranger. Donc, c'est possible. En revanche, vis-à-vis de groupes européens, non. Ça, on est obligé d'accepter les groupes européens. Mais ça veut dire que le nombre d'acheteurs potentiels va peut-être pas être très important, d'autant plus que c'est une activité très particulière. Il faut des compétences spéciales pour exploiter un aéroport de cette taille. Donc, il n'y aura peut-être pas une très grande concurrence.
Une chance au tirage, la Française des Jeux cette fois-ci. Est-ce que là, c'est une bonne opération que celle que l'État pourrait faire en privatisant la Française des Jeux ?
C'est pareil. Donc l'État va. Alors la Française des Jeux, les Jeux, c'est une manne pour l'État d'abord, mais c'est une manne fiscale essentiellement. C'est-à-dire qu'il y a à peu près presque le quart de ce que vous pariez de toute façon qui va automatiquement dans les poches de l'État, qui est le seul à gagner.
Et ça, ça changera pas.
Donc ce qui va changer, c'est que après la société Française des Jeux fait quand même un bénéfice et le reverse à l'État pour les trois quarts. Donc l'État va perdre ce bénéfice. Bon, est-ce qu'il arrivera à vendre un prix suffisant pour que ça compense sous forme de désendettement et de charges financières moindres, ça n'est pas évident. Et là encore, il y a aussi un problème vis-à-vis des clients. C'est-à-dire que la Française des Jeux a encore un monopole sur certains jeux, le loto en particulier. Donc il faut aussi que l'État veille à ce que la Française des Jeux ait un taux de retour pour les joueurs qui ne soit pas trop mauvais pour les joueurs. Donc il y a aussi un problème de contrôle.
Mais dites-moi, parce qu'on a quand même une expérience de ce que pourrait devenir ces entreprises privatisées. Alors, on l'a par exemple avec les autoroutes. Disons que la privatisation des autoroutes déclenche à intervalles réguliers des grincements de dents, voire de pneus.
Oui, et d'ailleurs, le problème est exactement le même que pour Aéroports de Paris. C'est-à-dire que les sociétés d'autoroutes ont chacune un monopole sur leur autoroute et pourraient augmenter très fortement les péages. Donc, l'État doit contrôler les péages, mais ce contrôle des péages, il est difficile parce que l'État contrôle les péages en contrepartie d'investissements, par exemple, que font ces sociétés. À avec des contrats à longue durée. Mais régulièrement, l'État revient voir ces sociétés en leur disant « Ah oui, mais je vous avais demandé de faire tel et tel investissement, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait rajouter une bretelle à tel endroit ou un mur anti-bruit à tel endroit. » Et à ce moment-là, ces sociétés en profitent, disant « Ah bah oui, d'accord, mais à ce moment-là, vous nous permettez d'augmenter encore plus les péages. » Et comme elles sont en situation de force à ce moment-là, bah, l'État est obligé d'accepter.
Et jusqu'ici, ça n'a pas empêché les péages d'augmenter, rassurez-moi.
Et donc, les péages augmentent, voilà, plus que ce qu'ils auraient dû augmenter d'après les contrats qui étaient passés à l'origine.
Et j'ai cru comprendre que l'État avait vendu à des prix quand même plutôt bas les autoroutes et leurs concessions.
Il y a eu une polémique à l'époque, il y a toujours eu critique. C'est difficile de trancher ce débat. La seule chose qui est sûre, moi...
J'ai l'impression que Vinci n'a pas fait de mauvaises affaires.
Non, je pense que Vinci n'a pas fait de mauvaises affaires. L'État, bon, a quand même gagné pas mal d'argent. Le problème de l'État...
Bah, ça valait de l'argent, on a vendu les autoroutes.
Oui, ça valait de l'argent, donc il en a gagné, il aurait peut-être pu en gagner de plus. Le problème, c'est que l'État ne sait pas réguler, enfin, a beaucoup de mal à réguler ce genre de société à long terme. Parce qu'il est, il change tout le temps d'avis, il a des besoins nouveaux en permanence, et donc c'est comme si vous prenez un entrepreneur pour faire des travaux chez vous et que en permanence vous lui dites bah attendez, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait rajouter quelque chose à tel endroit, etc.
Voilà, la preuve est faite. C'est toujours compliqué de vendre les bijoux de famille. Voilà. Merci François Eycal. Je rappelle que vous êtes économiste et chargé de cours à l'université de Paris 1.